Notre prochaine invitée est Madame Olive Kamagnana. Madame Kamagnana, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez été candidate pour la coalition Avenir Québec dans la circonscription de Pontiac aux élections de 2018. Vous êtes également présidente de l'organisme LeaderPoll. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des femmes. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous?
Cette journée est de grande importance pour moi parce que c'est une journée où nous célébrons la contribution des femmes et surtout le rôle des femmes au niveau international, au niveau national et au niveau local dans, par le fait que nous sommes, nous les femmes, des contributrices au niveau social, au niveau communautaire et au niveau économique. Et cette année, la journée de la femme ici au Canada est sous le thème relance féministe. Donc, pour nous, c'est très important que le féminisme continue d'évoluer et qu'il continue d'être approprié pour notre...
Pensez-vous qu'aujourd'hui, en 2021, que c'est encore un défi d'entrer en politique en tant que femme?
Aujourd'hui, c'est encore un défi, c'est sûr, parce que si c'était pas un défi, on parlerait plus de la réalité autour de la partie entre les hommes et les femmes quand vient le moment de se lancer en politique, quand vient le moment de chercher et de combler les postes politiques, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. Donc, il y a encore beaucoup d'hésitations à permettre aux femmes de se lancer en politique, de permettre aux femmes d'être choisies par les partis politiques, surtout les grands partis politiques. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que quand on donne la place aux femmes, on a tendance à leur donner les circonscriptions ou les comtés qui sont sûrs qu'ils ne vont pas gagner. Donc, ça reste quand même un défi. Et c'est de plus encore un défi quand on parle des femmes issues des minorités visibles, des femmes issues des minorités culturelles, par exemple, les femmes issues de la communauté noire.
L'ex-première ministre du Québec, Pauline Marois, a souvent parlé de deux poids, deux mesures pour les femmes. Dans votre cas, vous venez donc de le souligner également, vous êtes issue donc de la communauté noire. Est-ce que c'est un double défi dans votre cas?
Absolument, c'est vraiment un double défi parce que déjà, je viens de parler du défi que les femmes ont en général pour occuper les postes politiques. Et quand maintenant nous parlons des femmes issues de la communauté noire, la représentativité, c'est très, très, très difficile en général, que ce soit pour les hommes que pour les femmes. Alors, mais pour les femmes, c'est encore une fois un défi plus difficile parce que nous n'avons pas, nous les gens de la communauté noire, nous n'avons pas cette chance-là d'être visible et de pouvoir être choisi par les grands partis politiques qui, en réalité, ne nous connaissent pas et ne connaissent pas notre compétence, ne reconnaissent pas non plus notre compétence. Alors, quand vient le moment des femmes, c'est encore une fois plus difficile. D'un côté, les femmes vont avoir tendance à ne pas se présenter, en fait, comme candidates. Ils ont tendance à moins aussi se présenter comme bénévoles dans les partis politiques. Et les femmes issues des communautés noires ont aussi tendance à s'offrir moins comme bénévoles en termes de bénévoles dans les partis politiques ou même pour occuper les postes à l'intérieur des partis politiques. Donc, ça devient encore plus difficile d'être visible et de se montrer, en fait, pour que leur candidature, notre candidature, soit retenue dans des comtés qui sont gagnants.
Comme vous le savez, donc, les femmes représentent la moitié des habitants de cette terre. Cependant, elles sont loin, très loin des postes de pouvoir au Québec. On assiste même à un recul de leur présence. En 2012, 32,7% d'élus seulement. Et un recul donc en 2014 où on note 27,2%. Quelles sont les pistes de solutions que vous suggérez pour pallier ?
Des solutions, je sais qu'il y a des groupes comme groupe Femmes et Démocratie au Québec qui fait la promotion de la présence d'hommes en politique. Ça, c'est déjà beau. C'est ce groupe-là, les responsables de ce groupe-là travaillent extrêmement fort. C'est un groupe très dynamique pour sensibiliser et les femmes et sensibiliser les partis politiques au niveau provincial, au niveau fédéral. Mais quand vient de sensibiliser les femmes au niveau municipal, ça devient tout un défi parce que dans la plupart des cas, les élections municipales se passent souvent sans parti politique, c'est souvent les indépendants. Donc, ça devient plus difficile, j'imagine, pour ce groupe, par exemple, groupe Femmes et Démocratie, de pouvoir interpeller les gens au niveau municipal. Et les autres solutions que nous proposons à LeaderPon, leadership politique pour les personnes d'ascendance africaine, c'est que, en fait, nous puissions sans les femmes issues de communautés noires à justement ne pas être gênées de montrer ses capacités, en fait, de s'impliquer et d'oser présenter sa candidature et oser s'impliquer dans les partis politiques. Et oser aussi devenir membre des partis politiques et au niveau municipal, et oser en fait s'assurer de pouvoir parler à son conseiller municipal, savoir ce que fait un conseiller municipal, ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, LeaderPol travaille évidemment avec les partis politiques et avec les gouvernants pour s'assurer de donner la place aux membres des communautés noires et surtout aux femmes qui, en général, nous le savons, ont beaucoup de capacités et ont un autre mode de gestion de notre.
Alors, ici, par exemple, en Outaouais, quelles sont les actions concrètes que vous avez faites avec LeaderPol?
Il faut souligner que LeaderPol est un organisme au niveau national, c'est-à-dire à travers le Canada. Mais au niveau de l'Outaouais, nous avons fait beaucoup. Nous avons justement, par exemple, au cours des élections passées, fédérales, nous avons organisé un débat qui a interpellé tous les candidats de l'Outaouais à se prononcer sur les enjeux qui touchent les communautés noires, dont entre autres la santé mentale, dont entre autres la présence des membres des communautés noires dans la magistrature canadienne, aussi la présence des membres des communautés noires dans les postes de gouvernance des sociétés d'État. Quand on dit société d'État, ça veut dire par exemple Radio-Canada, être PDG d'Hydro-Québec ou être sur le conseil d'administration des organisations qui sont faiseurs des politiques en fait, mais dont les dirigeants sont nommés par soit le premier ministre ou soit par le ministre. Donc ces questions-là ont été posées à ces candidats qui sont au niveau fédéral et au niveau fédéral. Il y a beaucoup de sociétés d'État. Donc, on a posé ces questions-là et les gens y ont répondu. Et aussi, on a travaillé au niveau de la ville de Gatineau. Nous avons posé des questions justement sur l'inclusion des membres des communautés noires dans la gouvernance. Comme vous le savez maintenant, aujourd'hui, le conseil municipal de Gatineau ne présente aucun élu issu des communautés noires. Oui. Et ça devient encore plus compliqué parce qu'au niveau des comités et commissions, il y a absolument personne en 2020, quand on a fait la recherche, il n'y avait personne comme membre citoyen de ces comités commissions, ce qui était désolant. Et on a parlé de la police, de la représentativité au niveau du corps.
Voilà. Le gouvernement donc québécois a annoncé dernièrement la nomination d'un ministre. Il s'agit donc de la lutte contre le racisme. Il s'agit donc du ministre Benoît Charrette. Vous avez fait une sortie sur les médias sociaux. J'ai également écouté aujourd'hui votre chronique sur les ondes de Radio-Canada. Quelle est votre position face à cela?
Ma position est très claire. Moi, je salue énormément et de façon très satisfaite la création du ministère de la lutte contre le racisme. Et ça, c'est un grand gain, c'est une belle action, une action bien réfléchie du gouvernement Legault. Parce que cette façon de faire, cette décision permet à notre société d'avancer. Ça fait très, très longtemps que cette question est discutée et c'est une action, une décision extrêmement importante. Cependant, ce que moi, la question que je me pose, c'est le choix du ministre à la tête de ce ministère. C'est vrai que le ministre a soulevé un bon point. C'est pas nécessaire de tout le temps regarder la couleur de peau quand on va nommer les personnes dans des postes, dans ce genre de postes. Cependant, ce que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi le double standard. Si on regarde qui on nomme quand on pense à un ministère qui s'occupe de la condition de la femme, la condition féminine, et quand on pense à la personne qu'on nomme, quand on pense à la défense des droits des francophones, pourquoi on ne le ferait pas quand on pense à la personne qui va s'occuper du reste ethnique au niveau de notre belle province? Donc, il y a un double standard que moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que si on veut résoudre les problèmes dans leur profondeur, il faut s'assurer d'avoir justement ce choix symbolique et qui est vraiment un choix institutionnel. Et quand on pense aussi au ministère qui s'occupe des affaires autochtones, c'est la même chose. C'est dirigé par une personne qui n'est pas issue de ces communautés. Alors, c'est le double standard qui m'interroge et c'est ça que j'interroge. Donc, si on veut traiter les enjeux, il faut trouver la même façon de traiter les enjeux. C'est ça la partie qui n'est pas acceptable. Si on peut le faire pour la francophonie, si on peut le faire pour la condition féminine, pourquoi on ne le fait pas pour les communautés racisées? C'est ça la question que je soulève.
Madame Olive Kamagnana, merci d'avoir répondu à nos questions. Et on profite une fois encore pour vous souhaiter bonne célébration de la Journée internationale des femmes.
Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Au revoir.